Interception. Bonjour. Il y a 60 ans, l'issue finale de la guerre se jouait en Normandie, et à cette heure-ci, la bataille du débarquement était très loin d'être gagnée. Tout pouvait encore basculer. Sur Omaha Beach, ce n'est qu'en fin de matinée que les Américains arrivèrent à se dégager des défenses allemandes. C'est là, face à cette plage, dans l'impressionnant cimetière américain de Colville-sur-Mer, avec ses 9387 croix blanches bien alignées, c'est là que tout à l'heure se recueilleront les présidents George Bush et Jacques Chirac. Ce sera la première cérémonie de cette longue journée de commémoration du 6 juin, pendant laquelle France Inter va vous accompagner. Aujourd'hui, Interception a choisi de vous faire découvrir une combattante de l'ombre, une de ces femmes dont le courage a contribué à la défaite des Allemands, une espionne française qui n'a jamais raconté dans notre pays son étonnante histoire. Elle s'appelle Jeannie Rousseau, aujourd'hui Jeannie de Clarins, nom de code dans la résistance, Amniarix. Elle faisait partie du réseau de Georges Lamarck, qui sera fusillé en 1944. Jeannie Rousseau a transmis à Londres des renseignements très précis sur les armes secrètes V1 et V2. Les bombes volantes et les missiles allemands, à quelques mois près, auraient pu changer le cours de la guerre et empêcher le débarquement. Ce fut le plus grand exploit du renseignement fourni par la Résistance, dira le directeur scientifique de l'espionnage britannique. Jeannie n'a pas été la seule, bien sûr, à donner des informations, mais en septembre 1943, son rapport a décidé Churchill à bombarder les bases de recherche et de lancement des fusées. Amniarix a été arrêtée peu de temps avant le jour J. Elle a survécu à l'épreuve terrible de la déportation, Ravensbrück, Torgau, Königsberg, deux condamnations à mort, la faim, la maladie. 60 ans plus tard, après bien des hésitations et pas très convaincue de l'intérêt de sa propre histoire, Jeannie de Clarins a accepté de rassembler ses souvenirs. Avec Philippe Reltien, elle est allée dans les endroits de Paris qu'elle fréquentait à l'époque, quand elle mettait en relation les industriels français et les occupants allemands, les oreilles et les yeux grands ouverts. Voici Interception, Jeannie dans la gueule du loup.
Dans Paris occupé, les Parisiens continuent à vaquer à leurs occupations. Les piétons de la place de l'Opéra ne font même plus attention aux écriteaux allemands et aux camions militaires couverts de branchages qui sillonnent les rues. Les rares et précieuses marchandises arrivent aux halles où les commerçants viennent s'approvisionner. Des soldats allemands passent devant les restaurants en plein air sous l'œil indifférent des Parisiens attablés. Un concert de Beethoven dans un kiosque à musique. Tout concourt à donner un spectacle paisible qui fait oublier que la capitale est occupée depuis le 14 juin 1940.
C'était celle-là, cette carte-là.
Là.
Là, c'est vous.
Oui. Là, c'est moi et c'est une photo de pendant la guerre.
Oui, mais Jeannie Rousseau, Amniarix.
Mais oui.
Là, vous avez une petite veste pied de poule.
Oui, noir et blanc. Je me la rappelle. Très élégante. J'étais très élégante pendant la guerre. Parce que parmi mes industriels, il y avait la chambre de commerce de la haute couture parisienne que je représente.
Et le chapeau?
C'est un chapeau en
dentelle.
Paille? Non, pas du tout. C'est de la... C'est une soi-disant dentelle, mais elle est en carton. Enfin,
En papier.
En papier. Voilà, il n'y avait rien. Je pense que même d'ailleurs, ça a dû être difficile de se procurer le satin pour faire les nœuds.
Mais là, vous avez l'air, sur cette photo, d'une jeune fille qui... Elle date de quelle époque?
Alors écoutez, moi j'ai 22 ans là.
Vous avez 22 ans là?
Mais j'ai l'air d'en avoir 16.
Vous vous souvenez de toutes les identités que vous avez eues entre...
Ah, non, pas toutes. Quand j'ai commencé à travailler pour mes industriels, j'étais toujours sous mon nom à moi. Mais quand je devais faire, à côté de mes industriels, des petits voyages à droite ou à gauche, spécifiquement pour le réseau, là j'avais droit à des faux papiers. J'ai eu au moins deux identités avant celle de Madeleine Chauffour. Planchet, je me suis appelée Planchet, tout à fait au début.
Le troisième nom important, c'est Amniarix.
Ah oui, mais ça, c'est pas un faux papier. Ça, c'est un nom dans mon réseau. Avant, je m'appelais B19, puis je me suis appelée B27, et puis tout de suite après, je me suis appelée Amniarix, c'est quand la marque a créé les droïdes.
Nous avons commencé à bavarder, confortablement assis dans des fauteuils d'époque au bar, en face de l'ancien hôtel Majestic. Jeannie de Clarence voulait se rappeler précisément l'endroit où, il y a 60 ans, un peu plus maintenant, elle venait, comme elle dit, exercer son petit métier.
Alors,
oui.
Ce dont vous parlez, juste en face de l'autre côté.
Oui,
de
mais attendez, je vais aller regarder. Je vais aller voir si je reconnais. Oui, alors voyez-vous, on rentrait déjà par le coin, là. Il y avait une double entrée, là, par le coin. C'est, pour l'instant, c'est le centre de conférence, le centre de conférence du ministère des Affaires étrangères.
C'est
l'avenue Kléber,
c'est ça.
Et c'était le Majestic. C'était ce qu'on appelait le militaire Befehlshaber, c'est-à-dire l'état-major allemand. Alors, l'état-major allemand avait des bureaux rue de Rivoli, là où il y avait les militaires, mais tout ce qui concernait l'occupation, ça se passait ici. Alors, il y avait donc deux sortes d'officiers au Majestic à l'époque. Il y avait des officiers d'état-major qui prenaient les décisions, c'est vrai, mais il y avait à côté d'eux des ingénieurs ou des officiers du moindre rang qui, eux, connaissaient les dossiers beaucoup mieux. Mais venaient ici surtout les grosses têtes, que les Allemands appelaient des Bonzes. Comme des Bonzes. Bonzen.
Pourquoi on les appelait?
Ah, ça, j'ai jamais demandé.
Des Bonzen. Mm-hmm. Donc, en fait, ils venaient là, ils se détendaient, ils
oui.
parlaient.
Oui. Mais il parlait de choses tout à fait banales. Il faut bien aussi se reposer. Ce n'était pas leur bureau. C'était dans leur bureau que j'écoutais les choses qui étaient moins banales. Et puis, plus tard, quand tu sais, ça a quand même duré 2-3 ans que je les apprivoise.
C'est vous qui les avez apprivoisés.
Ah oui. Ah mais ça, je réponds facilement, là.
Ma fille parle admirablement bien l'allemand, dit M. Rousseau, maire de Dinard, là où la famille Rousseau a trouvé refuge. Les Allemands sont pressés de trouver une interprète, elle fera très bien l'affaire. Et c'est comme ça qu'en juin 40, Mademoiselle Rousseau commence à renseigner la résistance en Bretagne. Les officiers allemands, trois en particulier, sont sous le charme. Quand elle est dénoncée puis interrogée, ils exigent qu'on la remette en liberté tout de suite. Celui qui lui fait les gros yeux, c'est son père. « Mais papa, je t'assure, j'ai rien fait de mal !» Forcée de quitter Dinard, elle retourne dans l'appartement de ses parents dans le 17e arrondissement, nez au vent, haut le pied, prête à se jeter dans la gueule du loup.
Nous sommes donc arrivés en 41, puisqu'on m'a dit que je n'avais pas le droit de rester dans les zones frontalières. Donc je rentre à Paris, j'avais fini mes études, j'avais mes derniers diplômes, et qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis, c'est là que je me dis, il faut aller chercher les renseignements là où ils sont. Me voilà donc à la recherche d'un travail pour lequel j'avais un atout majeur. C'était que je parlais fort bien l'allemand et que ces gens-là, au fond, ils avaient peu appris le français et même pas beaucoup l'anglais. Ils n'étaient pas très linguistes, ce que j'ai vu en tout cas, que j'ai connu. Donc il fallait que je rentre dans un de ces endroits qui leur était très restreint et que je me fasse oublier. Vous ne dites rien, vous ne posez pas de questions, mais vous écoutez tout. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que je serais autorisée à fumer une cigarette parce que je suis gentille? Voilà, merci. Alors, qui va m'aider à entrer en contact avec ces gens-là? Alors, Alors là, il faut chercher, il faut avoir des relations, il faut chercher.
Rue Saint-Augustin existe ce qui est l'équivalent de la chambre de l'industrie de l'époque.
Je dirais que ça correspondait à ce qui est maintenant le MEDEF.
Donc, vous êtes à la jonction, là.
Mais là, je suis à la jonction. Je rends service aux uns et aux autres. Je me présente rue Saint-Augustin. Monsieur, j'ai entendu dire par votre cousin Germain, c'est pas ça, mais autre chose, que vous cherchiez à établir des relations avec les Allemands pour le compte de vos mandants. Et moi, il se trouve que c'est une petite chose que je sais faire, je sais parler l'allemand plutôt bien que mal. Entrez, mademoiselle, mettez-vous au cinquième étage, dans un petit bureau à côté du mien. Lui, il ne parlait pas un mot d'allemand. Et la plupart de mes gros patrons non plus. Alors on me dit, écoutez, il faut absolument que mes gros patrons, mes patrons, etc., aient des contacts directs avec les Allemands. Alors, est-ce que vous voulez aller prendre ces contacts? On va vous donner une belle lettre d'introduction qui dira « Mademoiselle Rousseau est chargée de représenter l'association Tartempion. Vous lui faites confiance, dans la mesure où vous nous faites confiance aussi, bien sûr, et nous vous donnerons toutes les indications que vous souhaiterez obtenir de nous. » Alors, allez-y. Et j'y vais.
Il y avait déjà l'idée de...
Ah, mais il y avait tout à fait l'idée. Non, mais l'idée, elle était tout à fait claire.
D'aller dans la gueule du loup.
Mais c'était pour moi, c'était la gueule du loup. Parce que si j'avais quand même commis une ou deux erreurs un peu majeures, j'en serais pas ressorti aussi facilement que j'y étais rentré. Mais là, je n'ai pas fait de vagues. J'étais bien élevé. J'étais coiffé avec sagesse. Je portais des robes à la longueur qu'il fallait. Et je ne sortais pas de mon rôle. En très peu de temps, je suis allé tous les jours, tous les matins. Je prenais le dossier en cours le plus utile ou le plus important ou le plus urgent, et avec une petite serviette à la main et mes Ausweis bien visibles, et le plus souvent, j'avoue que je prenais un taxi bicyclette. Je n'ai pas eu une vie trop dure à ce moment-là. Je l'ai payé après, mais... C'est une autre histoire.
Donc vous y allez en vous disant, je vais observer et écouter.
Et n'oubliez pas qu'à l'époque, je ne savais pas ce que j'en ferais. Je n'avais pas l'autre côté. Et c'est là que la chance sourit aux
audacieuses.
Peut-être. Enfin, en tout cas, il faut que la chance sourit. Si elle ne sourit pas, Bon, il ne se passe rien. On ne met pas une petite annonce, cherche personne intéressée par des renseignements du haut secret. Non. Il faut que ça se passe.
À Paris, au Petit Palais, se tient l'exposition permanente de la technique allemande. Afin de faire collaborer étroitement les industriels des deux pays, les fabricants allemands exposent ici non seulement des pièces détachées, mais aussi des appareils complets pour lesquels ils cherchent un fabricant en France.
Elle a maintenant une belle carte de visite, représentante du syndicat des industriels français, avec laissez-passer permanent pour des va-et-vient entre les patrons de l'époque et le client, l'occupant. C'est fou ce que les Allemands avaient besoin des Français pour construire le mur de l'Atlantique. Deux fois par mois, il faut aller faire tamponner les contrats à Vichy. Dommage, ce n'est pas l'Orient Express, c'est un train bondé, un train de nuit. Il faut voyager debout avec sa petite valise en carton. Tiens, tiens, vous ici ? Elle croise un universitaire qu'elle connaît bien. Georges Lamarck, agrégé de maths, spécialiste du calcul des probabilités, déjà versé dans la résistance. Et lui, c'est un pro.
Donc, vous êtes dans le train de nuit.
Donc, je suis dans le train de nuit. Et qu'est-ce que tu fais ? Ne tutoyez pas, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous faites de beau ?
Qui dit ça ?
Lamarck. C'est Lamarck que je rencontre dans le train. Alors, il me dit, eh, qu'est-ce que vous faites ? Ben, j'ai dit, je vais vous faire rire. Parce que... C'est pas à tout le monde que j'aurais dit ce que je faisais, d'ailleurs. Ça pouvait n'être pas très bien compris. Mais dans son cas, à lui, j'avais pas d'hésitation. Je dis, je pense que vous me connaissez tout de même assez pour que je ne sois pas de la graine de collaboration. Néanmoins, je suis en contact constant avec les Allemands. Alors là, je brode un peu et je dis, mais il s'agit de défendre les industriels, n'est-ce pas? Bon, mais il n'était pas idiot et par conséquent, il a bien compris qu'il n'y avait pas que ça. Et moi, je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, il dit, moi, je suis dans une organisation de jeunesse. Bon, puis enfin, j'ai aussi quelques petites autres responsabilités. On m'a chargé de rassembler quelques notions. Alors moi aussi, je fais marcher ma petite tête. Et il me dit, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a ses entrées chez les Allemands et qui parle l'allemand, et puis qui m'aiderait volontiers. Est-ce que vous voulez m'aider? Travaillez avec moi. Je dis, mais vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Je vous attends depuis un bon moment. Pas vous, je ne savais pas que ce serait vous. Mais quelqu'un qui viendrait me poser cette question. Alors voilà, top là. L'affaire est faite.
Donc vous arriviez par là?
Moi j'arrivais de l'autre côté en fait. Que je vienne de chez moi, ou que je vienne de la rue Saint-Augustin, ou même que j'arrive du Majestic. Voilà, monsieur, si vous voulez bien prendre la droite là ou là, c'est aussi simple, c'est la rue Faber.
Là.
On a une vraie énigme à résoudre. Mais on va rentrer chez Nivellec. C'était pas Nivellec qui était là à l'époque, bien sûr. Mais il y a peut-être encore un vieux membre du personnel, y compris d'ailleurs à la cuisine, qui se rappellera peut-être quelque chose. Parce que je ne me rappelle pas comment s'appelait le restaurant qui le précédait.
Ici?
Oui.
Ici, ça s'appelait le Tagada avant.
Ah, Tagada, mais oui, bien sûr.
Tagada, soin.
C'est ça, Tagada. Ben, je peux lui téléphoner un jour.
Oui, bien sûr. Ou même venir le voir directement. Ça
oui.
Ça fait plaisir, hein, sans problème.
Venir manger le homard de monsieur le
Livellec, ce
sera toujours un plaisir.
Pourquoi pas, oui.
Bon, ben alors, on va faire ça.
Voilà.
Qu'est-ce que ça m'amuse de revenir dans ce quartier, vous savez.
Très bien, je retiens.
Merci. Alors, dites-lui.
Oui, bien sûr, je vais faire ça.
Oui.
Ah, vas-y,
très pratique.
Merci.
Au revoir, monsieur. Au revoir, madame.
Ça fait tout de même 60 ans. Alors, on avait un arrangement avec eux. La marque s'était fait, qui était un gourmet, et qui trouvait la nourriture de la guerre extrêmement mauvaise, était très content de pouvoir avoir la nourriture de l'ancien Le Nivellec.
Oui?
Madame Odigier? Madame, je vous dérange, vous ne me connaissez pas, mais j'ai habité dans cet immeuble en 1942. Nous avions une planque de la résistance dans cet immeuble. Est-ce que vous en avez le souvenir? Mais vous n'étiez peut-être pas née. Ben on recherche pour une émission à France Inter les lieux dans lesquels les gens se cachaient pendant la guerre. Grosso modo.
Oui.
L'ascenseur. Oh, c'était. Vous voyez que c'était comme il fallait que ça soit, c'est-à-dire très bien, très convenable. Nous n'étions pas dans un squat, mais nous n'étions pas non plus au Ritz. Oh, alors, pour parler à cette dame, j'aurais dû me revêtir de mes décorations. Ça fait très bon effet sur les dames de cette génération. C'était un petit ascenseur déjà. Et alors, il faisait du bruit au cinquième. Je vais vous raconter l'histoire du bruit. «
troisième.
Mais ça faisait ce bruit surtout au cinquième. À la hauteur du cinquième, il y avait un... Soixante ans. Bon, oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout. Alors, si ça faisait ce bruit-là au cinquième, nous savions que quelqu'un était monté au cinquième. Pardon. Vous permettez ? Bonjour madame. La fois précédente où je suis venue dans cette maison, c'était en 42.
Vous avez habité ici en 42 ?
Oui.
Oui, je ne me rappelle pas très bien, asseyez-vous.
Non, vous ne vous rappelez probablement pas, c'est tout à fait naturel. D'autant que nous ne faisions pas beaucoup de publicité sur notre présence.
Vous étiez à quel étage ?
Sixième, si ma mémoire est bonne.
Le sixième surcoup.
Alors, il y avait, sur la façade de la cour, il devait y avoir trois pièces. Et puis après, de l'autre côté, peut-être un petit couloir ou quelque chose, il y avait la cuisine.
C'est tout à fait ça.
Ah, ben voilà.
C'est tout à fait ça, mais je croyais l'avoir. Attendez, comment est-ce que ça s'est passé ?
On a trouvé.
Merci.
Vous êtes gentille de vous être déplacée, madame, merci, et surtout d'avoir demandé madame. À votre tante de nous recevoir. Madame, je vous salue. Je vous remercie, nous sommes des petites camarades.
Ah ben voilà.
Voilà.
Sans le savoir.
Oui.
Au revoir, monsieur.
Merci, madame. Merci.
Ne marchez pas si vite.
Les trois officiers allemands qu'elle avait rencontrés à Dinard sont maintenant à Paris. Ils sont attachés à la défense anti-aérienne. Leur chef est le colonel Wartel, chargé par Hitler de développer les armes de représailles, les V1 et les V2. Les V1 sont des bombes volantes catapultées. Les V2 sont des fusées. Elles sont testées en Allemagne orientale sur l'île de Peenemünde. L'Angleterre cherche à connaître leurs capacités et d'où elles seront lancées. Jeannie Rousseau a maintenant deux vies. Le jour, elle écoute les conversations des Allemands, y compris dans leur salon privé de l'avenue Hoche. Le soir, elle rapporte ses petites noisettes, comme elle dit, à Georges Lamarck. La photocopieuse n'existe pas. Elle photographie, enregistre tout de mémoire sans éveiller les soupçons.
Je rends des services constants à cette organisation. C'est moi qui achète le champagne, c'est moi qui achète les cadeaux de Noël, c'est moi qui fais envoyer du foie gras du midi, c'est moi qui achète le tissu de cachemire qui vient d'Espagne pour les dames de ces messieurs, c'est moi qui vais acheter des bijoux pour les dames de ces messieurs, c'est moi qui vais chercher les chaussures de Madame Rommel, rue de la Paix, chez Perugia, parce que quelqu'un a dit à Rommel qu'il y avait une petite demoiselle qui connaissait, évidemment je connaissais tout le monde. Alors, et j'ai apporté les fameuses chaussures grises qui ont été trouvées dans sa voiture quand il s'est tué. Des chaussures en daim gris. Imaginez-moi ça. Alors, je faisais tout ça.
Donc, vous avez fini vos journées ici, où vous rendez tous ces menus services qui vous prennent quand même pas mal de temps. Vous avez le temps d'aller, si j'ai bien compris, au troisième étage chez votre ami...
En passant.
Et puis, deux fois par semaine, vous allez chez Lamarck. Et donc,
plus souvent que ça.
Plus souvent que ça. Et il y a un moment où vous tombez sur la pépite, j'allais dire. La pépite, c'est leurs armes secrètes.
Vous savez, on n'entend pas ces choses-là en une fois. Il n'y a pas quelqu'un un jour qui s'approche de vous et qui vous dit « j'ai une arme secrète très superbe, là ». Non. Mais vous entendez d'abord un mot, puis une phrase, puis un lieu... puis le nom d'une ville, et puis ça vous rappelle quelque chose que vous avez entendu 20 jours avant. Et c'est du travail de gagne-petit.
Et vous entendez souvent le mot « Peenemünde »
Ah oui, bah alors ça, c'est devenu... Moi, je sais aussi sur la carte.
Petite île, sur la Baltique,
oui.
En Allemagne de l'Est.
Mm-hmm.
Et vous faites le rapport rapidement entre...
Oh, j'ai bien mis... Oh non, j'ai mis un petit moment entre les deux. Alors, j'ai vraiment attendu d'avoir suffisamment de choses concomitantes, de choses qui se recoupaient les unes les autres. Donc, il a fallu du temps. Oui, c'est vrai.
Donc, avenue Hoche.
Avenue Hoche, oui.
Se prolonge. Les connexions...
Absolument.
...entamées...
Absolument. Ayant passé un petit moment ici, à deviser gaiement, on allait s'installer avenue Hoche, où je pouvais voir la place dont ils disposaient, me montrer leurs photos de famille. Il y avait un très joli fumoir et un très joli salon. Et les officiers supérieurs restaient beaucoup en haut. Mais quelquefois, je les voyais et donc je leur parlais, et réciproquement.
En fait, ils vous invitaient là, on était dans une ambiance plus intime. Disons.
Tout à fait. Je n'oserais pas dire amicale, mais eux le prenaient comme ça.
Vous étiez la seule ?
J'ai toujours été la seule. Et il y avait d'autres dames, d'un agent légèrement différent, semble-t-il, à d'autres moments. Et quand moi j'étais là, non. Non, monsieur, j'ai demandé la prune.
Oui, c'est ça, une prune.
C'est pas une prune. La prune, c'est blanc.
Ah, c'est une vieille prune. Ah, bon, je vais vous apporter une prune. Hein.
Bah, qu'est-ce que c'est ? Attendez, je vais la goûter. Si elle ne me plaît pas, je vous le rends juste.
L'armagnac.
Mais la prune, c'est toujours de la vieille prune. Oui, alors, qu'est-ce qu'on m'a apporté qui était blanc tout à l'heure ?
Ah,
alors un autre alcool blanc,
c'est un alcool
peut-être.
Blanc, oui, de prune aussi, peut-être,
bon.
Oui.
Mais vous en faites pas, ça sera.
Ça va aller.
Oui, oui.
Donc, ces Allemands qui vous font confiance,
oui.
Petit à petit... Vous introduisez quand même un jeu.
Mais vous savez, mon cher ami, vous me dites toujours, vous restez une espionne, ou vous faites l'espionne, ou vous êtes espionne. C'est très drôle. Je n'ai jamais pensé à moi-même comme à une espionne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas. Mais il y avait des choses à apprendre, à savoir. Il y avait plusieurs moyens d'y parvenir. Et je les utilisais, mais sans me... Je ne fais pas partie de la galerie, si vous voulez, des espionnes.
Quand ils parlent entre eux.
Oui, parlent en allemand.
Ils parlent en allemand
toujours.
Entre eux.
Et quoi qu'ils sachent, car ils le savent, que je parle très bien l'allemand, ils n'y pensent pas tout le temps. Je suis sûr que beaucoup de choses sont dites qu'au fond, s'ils avaient parlé en français ou en anglais, ils n'auraient pas dites. Ils m'oublient, je suis le meuble. Et comme ils sont détendus, ils disent ce qu'ils ont à se dire les uns aux autres. Et il m'appartient à moi de l'enregistrer.
Donc vous l'enregistrez, mais de temps en temps, à celui à qui vous pouvez parler, parce que c'est celui qui vous fait le plus confiance, vous lui dites, mais j'en crois pas mes oreilles,
ah
c'est ça ?
Ah mais c'est pas tout de suite, c'est longtemps après, c'est dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions. Oui, oui. Je dis, vous savez, vos copains me racontent des salades. Mais pas du tout, vous n'avez rien compris. Je dis, écoutez, j'ai d'une intelligence moyenne, mais tout de même, là, qu'est-ce que c'est que ces histoires de vol stratosphérique? D'abord, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, c'est à telle distance, c'est à temps de... etc., on monte à telle... Je dis, mais non, c'est pas possible. Et pourquoi vous ne voulez pas me croire? Je dis, parce que c'est pas croyable, c'est tout. Je veux bien que vous gagniez la guerre, dis-je. Enfin... C'est pas sûr, vous auriez mieux fait de ne pas la faire. Mais surtout, je vois pas comment vous pouvez espérer gagner la guerre contre les Anglais. Parce que nous avons les armes secrètes.
À un moment donné, il prend la mouche.
Ah, ça oui. Ah, pour me montrer les dessins, il fallait déjà avoir pris la mouche. Mais pourquoi ? Il s'était convaincu que j'y comprendrais rien. Et à juste titre. On vous montre d'un truc de Star Wars, hein, un dessin qui ne correspond à rien de ce que vous connaissez. Et vous le regardez, et vous vous dites, nom de Dieu, nom de Dieu. Et c'est fabuleux. C'est là que la mémoire, le truc, le machin, vous y faites appel.
Donc il va finir par vous montrer un dessin.
Oui.
Donc il sort...
Trois.
Trois dessins.
Et je me disais, Il ne faut pas que j'en oublie un coin.
Je t'imagine en train de reproduire ces dessins.
Ben oui. Est-ce que c'est un demi-cercle? Est-ce que c'est pas vraiment un demi-cercle?
Il faut que nous expliquions. Ça ressemble à quoi?
Il y a d'abord une haute, un haut demi-cercle, comme ça. Et puis après, il y a un autre bâtiment, comme ça. Et puis après, il y a des lignes transversales, comme ça. Ce que j'avais bien dans la tête, c'était la taille entre ça et ça et ça.
Si vous n'aviez pas les tailles et les dimensions exactes, vous aviez le rapport des dimensions.
Ah, j'avais le rapport des dimensions et je sais que Jones m'a dit un jour que c'était le rapport des dimensions qui lui avait donné la clé.
Jones étant le chef du renseignement scientifique à Londres.
Il avait déduit le poids du carburant et la nature du carburant. Et quand il a eu les chiffres exacts après la guerre, il était dans une fourchette minimum.
Et parce que vous décriviez, là c'est décrit dans le rapport, j'ai le texte ici, ce sont vos mots à vous, hein. Il semble, c'est ce qui va partir dans le, pour Londres, il semble que le dernier stade du développement d'une bombe stratosphérique ait été atteint, cette bombe est de 10 mètres cubes, ça c'est quand même un renseignement scientifique, de volume, rempli d'explosifs. Elle serait lancée verticalement, presque verticalement, pour atteindre la stratosphère. Les tests, les essais ont donné d'excellents résultats. Quant à la précision, un officiellement estime qu'une cinquantaine à une centaine...
Ça, c'était le conseiller scientifique de Wachtel qui a dit ça.
Une cinquantaine ou une centaine de ces fusées suffiraient à détruire Londres. Et donc, c'est ce rapport-là qui fait tilt.
Oui. Vous voyez comme il faut peu de choses. Il faut peu de choses.
À ce moment de la guerre, Hitler place de grands espoirs dans le V1, V pour vengeance. Son arme secrète, une bombe volante propulsée par réacteur et qui transporte 820 kg d'explosifs. Le 12 juin, les premiers V1 partent des rampes de lancement de la région de Calais vers Londres. L'alerte est donnée, les Anglais s'organisent. L'effet de surprise rapidement dissipé, la Royal Air Force démontre que les V1 peuvent être abattus en vol ou détruits préventivement par des ballons captifs. Hitler espérait porter un coup décisif aux Anglais, mais Londres ne capitule pas.
Les Allemands ne feront jamais le lien entre Mademoiselle Rousseau, arrêtée pour espionnage à Rennes en janvier 1941, et Madeleine Chauffour, cernée avec des porteurs de courrier près de Tréguier le 24 avril 1944. C'était pourtant la même jeune femme. Les services anglais avaient décidé de lui faire traverser la Manche pour un débriefing à Londres avec le meilleur interprète des photos militaires de l'époque, Reginald Victor Jones. Des prises de vue aériennes montraient le danger imminent de tirs de fusée V2 et Amniarix était la personne qui connaissait les codes pour entrer sur la base de lancement. Lors d'un voyage en Allemagne, avec les officiers en poste à Paris, elle avait obtenu ce précieux renseignement. Dans le château où on l'interroge en Bretagne, puis au siège de la Gestapo, elle ne dira rien sur son travail clandestin. Rien non plus sur le peu qu'elle savait concernant le débarquement. « Ils ont oublié de me le demander », dit-elle. Ce jour-là, le jour J, elle est à la prison de Fresnes.
Ce que les autres ont dit, je n'ai jamais su, Dieu merci. Mais ils avaient tué un de nos petits camarades tout de suite, après nous avoir pris dans la maison de l'ingénieur. Et alors ce malheureux garçon nous a rendu à tous un immense service, parce qu'on a pu tout lui mettre sur le dos. Et au lieu de nous faire peur, cette exécution nous a au contraire donné la possibilité d'organiser mentalement, chacun pour soi d'ailleurs, sa défense. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je fais du... Je vends des... Je fais du marché noir de bas de nylon.
Et vous aviez combien? 2 douzaines de bas nylon?
2 douzaines de bas nylon. Bon, mais moi, j'avais mon histoire. Ce charmant garçon que j'aimais tellement, que vous m'avez tué sous le nez, que c'est une chose horrible, comment le raconterais-je à sa mère, comment est-ce qu'il s'appelle, je ne sais pas. Bon, Ça, d'une part, et d'autre part, les bas nylons. Ben, ça m'a donné au moins une journée de relative tranquillité. Après, les choses ont changé, mais ça donne beaucoup de sécurité.
Et ils n'ont pas fait le lien entre Jeannie Rousseau et Madeleine ?
Mais chauffeur, mais jamais de la vie. Pourquoi ? À quel titre ? Pas question. C'était pas une grosse affaire. On n'a pas mis les gros spécialistes dessus. Ça commençait à aller un peu plus mal après René Saucet. Mais enfin, à ce moment-là, le gong a sonné, c'était la fin de la guerre. Et les Allemands embarquaient déjà tous leurs documents, ou les brûlaient, avant de s'en aller. Alors voilà, sauvé par le gong. Ça ne m'a pas empêché d'aller à Ravensbrück, mais enfin, ça c'est autre chose.
Et quand est-ce que vous apprenez que le 6 juin...
Ah, en prison ! Vous pensez bien qu'en prison, tout se sait. J'étais à Fresnes. Quelle journée, quelle nuit, quel bonheur. C'était fabuleux. Ah oui. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés à Ravensbrück, mon convoi et le convoi de la même date, nous étions les porteurs d'espoir pour les gens qui étaient déportés déjà depuis quelque temps. Parce que nous savions que ça s'était passé. Nous savions que le tournant de la guerre avait été absolument pris. Pensez donc. Il y en a pour 2 mois, 3 mois, on croyait encore que la guerre serait terminée avant la fin de l'année. Donc courage, car on les aura. Ça ne peut pas être autrement. Enfin, on est arrivé à Ravensbrück et on a dit, c'est fait. Quelle chance, on était les messagers de l'espoir. Et ça a été fabuleux, fabuleux. Si je comprends bien, nous partons directement pour la gare de Pantin. C'est bien ça. Maintenant, on va aller chercher nos trains.
Bon,
c'est le mien, c'est mon convoi. Eh bien, après des tours et des détours, aujourd'hui aussi, on est arrivé à l'entrée du quai aux bestiaux, dans Pantin, 100 rue Quartier Bresson. Et ici, le mardi 15 août 1944, est parti le dernier grand convoi de déportés de la région parisienne vers les bagnes nazies de Buchenwald et de Ravensbrück. Et voilà, et c'est bien là que j'étais le 15 août 1944. Alors, je vais quand même aller regarder s'il y a, un wagon qui... Mais que ce soit le quai du wagon aux bestiaux, je trouve ça extraordinaire. Parce que c'était des wagons à bestiaux dans lesquels on nous a fait monter.
Des autobus de la régie parisienne sont venus chercher les prisonniers politiques à Fresnes pour les conduire ici, à la gare de triage de Pantin. Maintenant, elle prend appui sur mon bras. 1000 souvenirs douloureux reviennent en mémoire. Nous faisons ensemble un bout de chemin au milieu de cette voie sinistre de la déportation. Personne n'a sauté du train, se souvient-elle. On ne pensait déjà plus qu'à sauver notre peau. Comment survivre ? À Ravensbrück, puis à l'usine de munitions de Torgau, puis à la forteresse du petit Königsberg. 2 fois condamnée à mort en sursis, malade de la tuberculose, elle sera libérée en avril 1945 par la Croix-Rouge suédoise.
Et voilà, La fin, la fin.
La fin de la voie. Il restait deux bouts d'acier, là. Hein. Deux rails.
Deux rails.
On voit d'ailleurs le,
on voit les
la
rails.
Marque de fabrique.
C'est chez Vindel. Et même H. Vindel. Donc Henri de Vindel. Ils auraient pu laisser un wagon, là, quand même. Ça aurait été plus parlant pour les gens qui veulent qu'on leur parle.
Il y a quelqu'un ?
Ils auraient pu laisser un wagon, ça aurait été plus parlant pour les gens qui veulent qu'on leur parle. Ainsi s'exprime Jeannie de Clarens, qui a attendu d'avoir 84 ans pour parler d'elle, pour transmettre à ses petits-enfants et à nous tous, non plus des informations secrètes, mais des parcelles de la grande histoire. Elle a connu la vie dangereuse comme espionne, puis la survie dans les camps, si douloureuse et si difficile à dire. Pourquoi est-on une héroïne ? Pourquoi, quand tant de gens choisissaient la prudence, avoir décidé de se mettre dans la gueule du loup ? Je l'ai fait, c'est tout. C'est une question de réflexe, dit-elle, nous laissant avec une ribambelle de questions sans réponse sur le pourquoi et le comment. Madame de Clarens, en collectant avec d'autres des informations cruciales sur les V1 et les V2, a sauvé des milliers de vies. Elle a permis aux Alliés de perturber et de retarder la mise en service des bombes et des fusées allemandes. Si elles avaient été au point 6 mois plus tôt, dira Eisenhower, le débarquement aurait pu tourner au fiasco. Car c'est une semaine seulement après le jour J et pendant 80 jours que Londres fut bombardée par des V1, bilan 6000 morts. Les premières fusées V2, dont Hergé s'est inspiré pour envoyer Tintin sur la Lune, les premiers V2 ont frappé la région parisienne, puis Londres et Anvers, à partir de septembre 44. Heureusement, elles étaient imprécises à cause de problèmes de guidage. Et puis dans cette course aux armes nouvelles de haute technologie, n'oublions pas que seulement 14 mois après le débarquement, les Américains utilisaient la première bombe nucléaire à Hiroshima, puis à Nagasaki. On ose imaginer l'usage qu'aurait pu en faire Hitler s'il l'avait eu. Au fait, qu'a-t-elle fait Jeannie après la guerre ? Dans un sanatorium, elle a rencontré son mari, un survivant d'Auschwitz, le vicomte de Clarens. Puisqu'elle avait un talent pour les langues, elle est devenue interprète. Et maintenant, elle fait partie d'Amnesty International et elle lit aux enfants des contes comme Le Petit Chaperon Rouge et La Belle au Bois Dormant. C'était Interception, Jeannie dans la gueule du loup, un reportage de Philippe Reltien, réalisation Anne Lioro, assistante Valérie Bourg. Les extraits d'archives venaient de l'INA et de Pathé Cinéma. À la technique, prise de son Christian Chazalon, mixage du reportage Yves Baudry et en direct ce matin au studio 135, Max Goyer et Fabrice Desmaz. Interception vous est proposée par Simon Tivol et Angélique Boin. Et au nom de toute l'équipe, je voudrais dire encore un grand merci à Jeannie de Clarens de nous avoir fait confiance. Je vous rappelle que sur Internet, cette émission est en ligne. Pendant une semaine, vous allez sur franceinter.com et dans les sites d'émissions, vous choisissez Interception. Et comme toutes les semaines, Interception est rediffusée dans la nuit de dimanche à lundi entre 4h et 5h du matin. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. La semaine prochaine, Interception vous emmènera très loin, au pôle sud, à la découverte de la station scientifique Concordia. Avant de retrouver nos correspondants sur les plages de Normandie, je vous propose un document en chanson Wish me luck as you wave me goodbye. Souhaite-moi bonne chance. C'est interprété par Gracie Field devant les soldats de la force expéditionnaire britannique. As you wave me goodbye, cheerio, here I go on my way. Wish me luck as you wave me goodbye, with a cheer, not a tear, make it gay. Give me a smile I can keep all the while in my heart while I'm away. Till we meet once again, you and I. Wish me luck as you wave me goodbye. Now I think we ought to all sing this chorus together. And Tom Webster, come on, love, you're going to write these here words there for me. Come on, love. Wish me luck as you wave me goodbye. Cheerio, here I go on my way. Wish me luck as you wave me goodbye. Dans un instant, suite sur France Inter de cette journée spéciale du 60e anniversaire du débarquement.